Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian et je suis heureux de vous retrouver. Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique. Nous pouvons affirmer que les trois piliers de la vie chrétienne sont la foi, l'amour et l'espérance. Dans la série que nous poursuivons aujourd'hui, nous réfléchissons au sens de ces trois qualités en nous penchant sur la première lettre de l'apôtre Paul écrite à l'église de Thessalonique. D'abord, Magali va lire les trois premiers versets de cette lettre et ensuite Diego nous rejoindra pour nous faire part de ses réflexions.
De la part de Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance pour vous, tout en faisant mention de vous dans nos prières. Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père.
Merci Magali et bonjour Diego. Bienvenue sur le plateau d'Espérance aujourd'hui.
Merci Yann et bonjour à tous.
Ces trois dernières émissions, nous avons discuté de l'œuvre de la foi des Thessaloniciens. Et aujourd'hui, nous allons plutôt nous pencher sur l'amour, ou, comme Paul l'a écrit, le travail de l'amour.
C'est exact, Yann. Et pour commencer, nous allons écouter un texte biblique que nous trouvons plus loin dans cette lettre aux Thessaloniciens, car il nous permettra d'éclairer la pensée de l'apôtre Paul en ce qui concerne l'amour. Cédons la place à notre lectrice pour la lecture de 1 Thessaloniciens à partir du chapitre 3, verset 11, jusqu'au chapitre 4, verset 10.
Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ, dirige notre parcours jusque chez vous. Que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous les hommes, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse ainsi votre cœur pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu notre Père lors du retour de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus, progressez encore. Vous savez en effet quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans le livrer à la passion du désir comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. Celui donc qui rejette ces instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères et sœurs dans la Macédoine entière. Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore.
Merci. Nous avons pris le temps d'écouter un long texte biblique et les thèmes qui s'en dégagent sont ceux de l'amour, la sainteté et la sexualité.
Oui, et alors que nous entamons nos discussions sur l'amour, il est nécessaire de faire le point sur certaines notions importantes. Il faut souligner que le mot « amour » peut avoir des significations assez diverses. De nos jours, le mot « amour » évoque surtout l'amour sentimental ou l'amour romantique. L'amour passionnel ou sexuel aussi. Ces types d'amour-là sont bons et ont leur place dans la vie. Mais parfois, ils peuvent revêtir un rôle négatif, surtout lorsqu'il s'agit de l'amour passionnel ou sexuel. Il faut ajouter que dans la langue grecque parlée dans l'Antiquité, et qui est la langue utilisée par Paul pour écrire sa lettre, on trouve plusieurs mots différents que nous traduisons simplement en français par un seul mot, le mot « amour ». Trois de ces mots grecs vont retenir notre attention. Le premier mot grec est le mot agapé. Il désigne l'amour tel que le don de soi pour aider, soutenir et répondre aux besoins de son prochain. Cet amour-là s'exprime par le biais de personnes charitables. Et c'est ce mot grec « agapé » qui apparaît dans la phrase « le travail de votre amour ». Ensuite, le deuxième mot grec qui nous intéresse est le mot « philéa » qui désigne l'amour, l'affection et la solidarité qui lie les membres d'une famille entre eux ou de bons amis et qui, selon l'apôtre Paul, unit aussi les frères et les sœurs d'une même église. Ensuite, le mot grec « eros » existe. Il désigne l'amour romantique, passionnel et sexuel.
Merci Diego pour ces précisions. Quelle est leur importance dans l'enseignement de Paul ?
Je commence par un bref résumé et nous développerons ensuite ces idées pendant 2 ou 3 émissions. En bref, l'apôtre Paul encourage les croyants de Thessalonique à développer et à vivre de façon grandissante l'amour agapé et l'amour philéa. Autrement dit, il encourage l'amour fraternel et aussi l'amour désintéressé et charitable. Dans les églises, l'amour qui doit se voir et être vivant, c'est l'affection vécue au sein des familles, la solidarité et la compassion, l'entraide et l'accueil, le soutien. Ensuite, l'apôtre Paul demande à des croyants de mettre des limites à l'amour éros, qui est l'amour passionnel ou sexuel. Je voudrais faire remarquer à ce propos que le mot français « érotique » trouve ses origines dans ce mot grec « éros ».
Merci, nous allons commencer par développer ce dernier point, me semble-t-il.
C'est vrai, Yann. Il faut préciser que l'immoralité sexuelle en tout genre était fortement présente dans la culture grecque, au 1er siècle de notre ère. Elle était en effet acceptée et même encouragée. Cette immoralité sexuelle était souvent associée au culte des idoles. C'est dans ce contexte que Paul écrit... Et il se montre très direct envers les nouveaux chrétiens, car il leur rappelle « Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans le livrer à la passion du désir comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. » Beaucoup de chrétiens se préoccupent de la question suivante. Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie ? Alors ici, Paul apporte une réponse à cette question. La volonté de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est que nous avancions vers la sainteté. Et pour marcher vers la sainteté, il faut entre autres s'abstenir de toute immoralité sexuelle. Un croyant qui continue à pratiquer l'immoralité sexuelle ne fait aucun pas vers la sainteté et il n'accomplit donc pas la volonté de Dieu.
Merci, nous comprenons toute l'importance et le caractère solennel de ces propos. S'il vous plaît, pouvez-vous nous rappeler en quoi consiste l'immoralité sexuelle ?
Oui. En bref, l'immoralité sexuelle, selon la Bible, consiste en tout acte sexuel consommé en dehors du mariage. Il est important de préciser que Dieu a créé la sexualité et que tout ce que Dieu crée est bon. Les rapports sexuels sont donc bons s'ils demeurent dans les limites fixées par Dieu, c'est-à-dire le mariage. Selon la Bible, le mariage consiste en l'union entre un homme et une femme, une union marquée par la fidélité, une union qui doit être durable et qui prend fin lorsque l'un des deux conjoints meurt. Alors, tout acte sexuel qui sort du cadre du mariage est qualifié d'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle inclut ainsi l'adultère, la fréquentation de prostituées, les rapports homosexuels, elle inclut également le recours à la pornographie et à tout acte sexuelle liée aux rencontres virtuelles et illicites faites sur Internet.
Merci Diego. Je voudrais rappeler que Dieu condamne l'adultère et cette interdiction apparaît dans les 10 commandements. Elle est contenue dans le 7e commandement, me semble-t-il.
C'est exact, Yann. Et l'Éternel condamne l'immoralité sexuelle dans d'autres textes bibliques aussi, notamment dans le livre du Lévitique. De ce fait, le peuple juif devait s'appliquer à poursuivre leurs rapports sexuels dans le cadre seul du mariage, tandis que les peuples environnants vivaient dans le laxisme. Ainsi, l'immoralité sexuelle était beaucoup moins pratiquée chez les juifs. Bien sûr, il y avait malheureusement des dérapages, mais en règle générale, les gens cherchaient à respecter la loi divine. Dans le monde gréco-romain, les mœurs étaient beaucoup plus libres. De ce fait, l'apôtre Paul a dû enseigner à tout nouveau croyant les attentes de Dieu en matière de sexualité. Et il y avait du travail.
Il en est de même de nos jours, me semble-t-il.
C'est malheureusement vrai, Yann. Dans la plupart de nos sociétés et cultures, la grande tendance est au libertinage sexuel. L'immoralité sexuelle est pratiquée, elle est très répandue. On peut même dire qu'elle est encouragée, surtout par certains de nos médias. L'on peut aussi mépriser ou se moquer de toute personne qui ose suggérer la poursuite de bonnes mœurs. Cependant, l'apôtre Paul est très clair. À propos de l'amour passionnel, sexuel ou érotique, le chrétien est appelé à pratiquer une grande maîtrise de soi. Il ou elle est appelé à être fidèle à sa femme ou à son mari. Dans nos sociétés très axées sur le sexe, un grand travail de contrôle de soi est à mener. Il est particulièrement important d'insister régulièrement sur cet enseignement dans le contexte de l'Église. Il faut aussi l'admettre, l'Église peut devenir un lieu de tentation. Car les frères et sœurs peuvent facilement sympathiser entre eux et parfois, des relations fraternelles saines, au départ, peuvent changer et se transformer en désirs et tentations malsaines et immorales. Il est nécessaire d'agir avec sagesse en tout temps et, comme je l'ai dit, d'exercer constamment la maîtrise de soi. Soyons très clairs, pratiquer l'immoralité sexuelle, c'est ignorer la volonté de Dieu pour notre vie. Tout acte d'immoralité sexuelle est un acte de désobéissance envers notre Créateur et notre Rédempteur. Il n'existe aucune exception. Si un prêtre, un pasteur ou un prophète suggère que l'immoralité sexuelle est acceptable et qu'il l'encourage, c'est un faux enseignant ou un faux prophète. Soit il a été induit en erreur, soit il désire profiter sexuellement de ses adeptes.
Merci Diego pour tous ces rappels clairs et importants.
Il est nécessaire aujourd'hui d'aborder ce sujet délicat des dérives de l'amour passionnel, car il représente de nos jours encore un sujet d'actualité, tout comme il l'a été il y a 2000 ans dans l'église de Thessalonique. La prochaine fois, nous parlerons plus en détail de la citation de Paul, « Le travail de votre amour ».
Et là, le mot grec que nous traduisons par « amour » est « agapé ».
Oui, ainsi la prochaine fois, nous définirons ce que l'amour agapé représente, et j'expliquerai pourquoi Paul associe le mot « travail » à cet amour agapé.
Ce sont des questions intéressantes et nous sommes impatients d'en savoir plus. Je vous remercie, Diego, de votre participation à nos émissions.
C'est un plaisir pour moi. Je vous reverrai bientôt. Au revoir à tous.
Merci. Moi aussi, je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.